Devenir par Synapse, pour devenir la meilleure version de soi-même. Bonjour tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Devenir. Ici, nous explorons des sujets qui nous passionnent, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Alors mets-toi à l'aise, augmente le volume et sois prêt à avoir l'esprit soufflé.
Bienvenue au Synapse Podcast, où on explore l'intersection du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Je suis Alex Cabon et j'ai avec moi aujourd'hui Frédéric Rochex. Bienvenue.
Bonjour Alex.
Enchanté de t'avoir, Fred. Fred, c'est quelqu'un qui, depuis que je l'ai rencontré la première fois, le premier contact dans les yeux, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une énergie. C'était une rencontre inespérée et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'énergie, qui m'a beaucoup inspiré dans mon parcours entrepreneurial et développement personnel. Donc, je suis vraiment content de t'avoir ici, de pouvoir explorer ça. Est-ce que tu veux te présenter et dire d'où tu viens?
D'où je viens? Je viens d'ici, de Grenoble. C'est important pour moi. Je n'ai pas bougé en fait. Je suis né ici, j'ai grandi ici et j'ai vécu un pied dans la ville et un pied dans la montagne pendant toute ma jeunesse. Donc, je faisais du ski une moitié de ma vie, puis le reste, j'avais une vie normale de collégien, lycéen. Et je ne savais pas à l'époque, mais ça va être en lien avec mon sujet, je crois, aujourd'hui. Ça m'a beaucoup construit dans ce que je suis aujourd'hui, dans ce que j'ai appris. De mener cette vie parallèle, ça m'a appris beaucoup de choses, de prendre du recul, de prendre de la confiance. Donc, je tends à être quelqu'un d'hybride, toujours un pied, un endroit, un pied à l'autre, dans l'autre. Donc, voilà. Donc, je suis bien ancré dans ma région, mais en croisant beaucoup de choses.
Wow. Donc, le ski depuis toujours et le pied dans la montagne, la nature et en même temps aussi, bien sûr, comprendre l'économie et la vie et comment ça marche.
Exactement, ouais, tout à fait.
Et quelle est votre mission aujourd'hui? Quelle est ta mission, ton projet?
Il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai entrepris il y a maintenant 17 ans en quittant un grand groupe, en créant ma structure, qui est passée par différentes étapes. Donc aujourd'hui, on est à une étape au niveau de l'entreprise. Et du coup, vu que je reste l'entrepreneur dirigeant, aujourd'hui, on fait partie d'une structure un peu plus grande, mais on est autonome. Donc, j'ai des missions personnelles et des missions vis-à-vis de l'entreprise, des nouveaux objectifs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut partager, mais j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'une.
Et au niveau personnel d'abord, qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Ton énergie, elle va dans quoi?
La question des énergies, elle me passionne parce que j'ai compris avec toutes mes lectures que le monde était énergie. Donc effectivement, c'est la bonne question, où vont nos énergies? J'avais des énergies très expansives, on va dire masculines, de conquête, puisque le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat. Donc j'étais énormément dans le faire pendant de nombreuses années. Et puis il y a, on va dire, une dizaine d'années, même si je les utilisais, mais je ne savais pas vraiment bien les utiliser, découvert d'autres énergies plus de l'ordre du féminin, justement, de l'accueil, de l'écoute. Et donc, dans un de mes projets, c'est vraiment de pouvoir bien manier ces deux énergies, que ce soit au niveau de la boîte comme au niveau personnel, de pouvoir bien les manager, créer un équilibre entre ces deux-là, on a besoin des deux. Et surtout dans notre société qui est, elle, très masculine et très dans l'avancée, et qui est nécessaire, mais on a besoin aussi d'autres types d'énergie. Donc, un de mes grands projets, c'est de construire une structure dans laquelle on peut avoir cet équilibre, et à titre perso et à titre collectif.
J'avais oublié ce sport de haut niveau. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment c'était d'abord avec l'énergie masculine, cette aventure?
C'est parti assez simplement parce que voilà, la famille, on va skier et puis... Puis un jour, on met un dossard et je n'avais pas beaucoup confiance en moi, je n'étais pas très expressif. Et puis tout de suite, on figure sur des listes de résultats et puis on se dit « tiens, c'est pas trop mal » et puis on rentre dans un club. Et puis en fait, ça a été une école pour moi, une école de vie, partir en stage, de côtoyer d'autres personnes, c'est là où j'ai le plus appris. Et puis du coup, forcément, on se retrouve le dimanche, on remet un dossard et puis on y prend goût. On est dans un petit milieu et c'était le milieu, moi je faisais du ski de fond, donc c'était vraiment un petit milieu dans sa qualifié de très sain parce que petit, pas d'argent, dans la nature. Et du coup, je me suis vraiment construit. J'ai appris à me découvrir parce que c'est un effort physique. donc apprendre à se dépasser, à se dire qu'on peut toujours faire mieux. Donc ça a été, je ne le savais pas à l'époque, hein, mais mon développement personnel, il a commencé dès l'âge de 6-7 ans, en essayant comme ça, sans le dire, sans avoir tous ces grands mots en tête, mais de progresser. Et ça m'a amené ce qu'on appelle le haut niveau, alors pas international, c'est un petit haut niveau, mais à côtoyer des gens qui, eux, étaient à des très hauts niveaux. Et donc, à aussi à faire l'expérience de côtoyer des gens, des cadors, quoi. Et du coup, de voir comment ils fonctionnent, de voir qu'ils ne fonctionnent pas comme moi, ça m'a ouvert à tous ces univers de gens ultra compétents. Donc voilà, donc ça m'a ouvert à cette notion de développement personnel de manière très, très forte.
Et jusqu'à quel âge ça a duré, ça?
Bah jusqu'aux études où j'avais le statut qui me permettait de à la fois étudier et de faire du sport. Mais j'étais pas très bon, donc je savais que ça s'arrêterait un moment. Donc ça m'a nourri, et après je savais que c'était dans le monde professionnel que j'allais m'éclater, donc j'ai arrêté après mes études. Mais en gardant les liens, en côtoyant des gens qui ont été médaillés olympiques, qui sont source d'inspiration vraiment de manière très forte. Donc c'est un milieu qui m'a construit et qui m'a apporté, qui m'apporte encore.
Bon, le ski de fond, ce qui est bien, c'est que pendant Covid, c'était toujours possible, même si le ski normal
carrément arrêté. C'était même, on était même les dieux, tout était accessible.
Tout le monde voulait apprendre. Et le basculement à l'énergie féminine, alors vers cet accueil, cette écoute, ça s'est passé à quel moment? Quand est-ce que ça a commencé?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, j'ai commencé à lire, j'étais intéressé par plein de choses que le monde m'interroge sur plein de sujets, donc j'ai eu pas mal de livres dans les rayons ésotériques, là j'avais presque honte de prendre un bouquin là-dedans, où on parlait de choses plus féminines, mais je ne savais pas. Le vrai déclic, c'était il y a un peu plus de 10 ans, maintenant on parle beaucoup de méditation, mais j'ai essayé de méditer en fait, mais personne n'en parlait. Parce qu'en fait, j'avais ce sentiment, enfin, j'étais à fond, hein, je faisais du sport, je travaillais quasiment 18 heures par jour. Et d'un autre côté, j'avais le sentiment que ce n'était pas complet, en fait. Je me disais, mais ce n'est pas possible, quoi. Je fais tout ça et j'ai l'impression de ne pas toucher le... J'ai l'impression qu'il y avait d'autres choses, en fait. Et donc, je lisais ces bouquins qui parlaient qu'on pouvait accéder à d'autres choses en méditant. Donc, je me suis dit, de quoi ils parlent? Je pense que les 15 ou 20 premières fois où je me suis assis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que ne rien faire, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Même je pense que c'est une perte de temps, quoi. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce que dès les premières séances, j'ai vraiment vécu ce côté de connexion, où je me sentais hyper bien, relié à des choses que je ne connaissais pas. Et je suis resté comme ça pas très longtemps, une dizaine de minutes, mais en étant bien sans rien faire. Et ça a été un déclic incroyable chez moi. Je me suis dit, ah, mais je n'ai pas besoin de faire pour être bien. Ce qui était pour moi pas évident jusque maintenant. Pour moi, il fallait entreprendre, il fallait faire plein de choses. Et du coup, ça a commencé à ouvrir cette autre case de dire, il y a un autre chemin aussi, quoi. Et là, c'est vrai que j'ai ouvert une porte qui m'a apporté beaucoup et qui est un complément du faire. Ça fait pas une opposition. Ça vient nourrir aussi l'autre partie et c'est venu équilibrer en fait. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, après, donc, j'ai exploré un peu cette zone-là et maintenant, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est l'équilibre de ces deux mondes. En fait.
La méditation, c'est quelque chose qu'on voit qui fait vraiment la différence dans la vie des gens. Moi, en 2005, comme on en a parlé, j'ai vu des gens qui me disaient que ça a changé leur vie. C'est en 2015 que j'ai commencé pour la première fois à essayer. Donc, j'ai mis 10 ans avant de vraiment expérimenter. Beaucoup de gens ont des difficultés encore de... Ouais. Et comme tu l'as dit, on a l'impression qu'avec l'énergie masculine, ne rien faire, ne pas avoir d'objectif, ou alors j'essaie de le faire en ne pensant à rien, justement, et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est justement de... Aujourd'hui, je le fais tous les jours, je médite, et justement, je pense à plein de choses, et quand j'arrive pas à... Quand je pense à 20 choses en 10 minutes, ça veut dire que j'avais vraiment besoin de méditer, ça m'a fait beaucoup de bien d'évacuer, justement, cette énergie, donc... C'est quelque chose que tu fais aujourd'hui tous les jours aussi?
Je le fais régulièrement. En fait, alors, je ne savais pas, mais déjà en faisant du sport, en fait, c'est une forme de méditation parce qu'on coupe le mental. Et c'est vrai que j'avais découvert en faisant du sport, et c'était pour ça que je faisais cette dualité sport. Et c'est que mes idées, elles ne venaient jamais quand je bossais, en fait. Elles venaient quand j'étais sur mes skis, et j'avais beaucoup utilisé ça. Et d'ailleurs, c'est le nom de ma boîte. Hein, l'entreprise s'appelle Insight Outside. C'était la solution est à l'extérieur. Et c'était vraiment, ça reposait sur ce concept de dire, on bosse, mais il faut sortir des fois, donc faire autre chose. Donc la solution est à l'extérieur, on sort de notre cadre et on revient, on a cette solution. Et en fait, moi, je le faisais par le sport sans le savoir. Et maintenant, je le fais aussi en méditation. Et c'est vrai qu'en fait, là où on croit qu'il n'y a rien, ben en fait, c'est là où émergent des choses incroyables, quoi, et qui dépassent le mental qui est hyper limité. qui en fait, parce que nos raisonnements logiques, en fait, ils vont prendre une, deux, trois, cinq, six données, mais on ne dépasse pas beaucoup plus ça, alors qu'il y a effectivement un champ qu'on ne maîtrise pas bien. On sent quand tout repose, il y a une espèce de quintessence qui remonte, des choses assez incroyables qui montent, et j'essaye d'utiliser beaucoup ça dans mon quotidien pour faire les designs d'événements, prendre des décisions un peu importantes, de voir ce qui émerge plutôt que de le rationaliser.
C'est vraiment une nouvelle source d'inspiration, un canal différent. Mmh. Et du coup, c'est le nom de l'entreprise Insight Outside.
Ouais. Mmh.
Dis-nous un peu plus de ces 17 ans, comment on en arrive à ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce que ça va aussi.
Il y a le point de départ, parce que donc, je me suis associé avec une autre personne qui venait d'un grand groupe et puis une autre personne qui venait aussi d'une autre structure. Il y a déjà le lancement hein, qui est un moment vraiment charnière, qui est difficile, donc quitter un monde de sécurité pour se lancer dans l'entrepreneuriat qui a été compliqué. Moi, le vrai déclic, ça a été à un moment, c'est ma femme qui m'a dit écoute, elle me voyait un peu dépérir dans ma grosse structure, elle m'a dit écoute, c'est pas grave, on mangera des pâtes toute notre vie, mais je veux au moins te voir avec le sourire, donc va créer. Et ça m'a donné l'énergie de dire bah, j'y vais, quoi. Voilà. Donc on s'est lancé. Ça a été très dur pendant... On s'était donné 18 mois avec l'argent qu'on avait pour créer. Mmh. Jusqu'au 16e mois, il n'y avait quasiment rien. Donc, on était vraiment de droit d'y rester. Et puis, à force de brasser, ben, il y a une piste qui est partie. Jamais on aurait pu dire pourquoi ça là plutôt qu'une autre. Un lien de contact, Hop, une vente assez importante, même assez incroyable, d'un événement qu'on n'aurait jamais dû faire, entre guillemets, et puis qui s'est bien passé, et puis qu'on a amené d'autres. Donc, et puis là, tout d'un coup, la dynamique s'est créée. Et là, c'était l'inverse pendant 3 ans, complètement à fond. Ça m'a vraiment connecté à une phrase à l'époque de Saint-Exupéry là, qui dit « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions, on les suit. » Donc, c'était vraiment ça, on avait créé plein de forces. Et on ne sait pas à un moment, mais il y a une solution qui émerge quelque part. Quoi. Et c'est aussi la magie de la vie, c'est qu'on ne sait pas d'où ça va venir. Quoi. Donc, on a eu cette chance de tirer ce fil, ça a marché. La crise en 2008, très forte dans nos secteurs, qui a à nouveau failli nous tuer, et à l'inverse, qui nous a aidé à nous recentrer sur un secteur d'activité qui était plus sain pour nous et plus porteur. Et puis après 2008-2009, du coup, bah, ça a continué à grandir. Et aujourd'hui, il y a 30 collaborateurs. On a intégré une structure qui s'appelle Europa, qui a 200 salariés, mais en gardant notre autonomie en 2016. Et c'est vrai que maintenant, on a cette chance, quelque part, d'avoir une structure qu'on a construite nous-mêmes, d'avoir une certaine sécurité financière. Et puis, d'ailleurs, la joie de l'entrepreneuriat, je la vis vraiment pleinement aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes, les 5, 6, 7, 10 premières années.
Alors, il y a deux choses qui me touchent. Là. Le premier, c'est donc ta femme, elle t'a encouragé. C'est elle qui a vraiment donné le déclic.
Elle m'a donné l'autorisation.
Alors qu'elle, elle avait un travail.
Vous voyez, justement, elle travaillait. Donc, elle m'avait dit, écoute, moi, au moins, je suis sécurisé. Toi, tu peux y aller. D'ailleurs, pour montrer à quel point c'était constitutif de la création, donc, il y a eu une opération financière en 2016 quand on a intégré le groupe. Et en fait, la première chose, l'énergie, un soir, je lui ai dit, écoute, il y a 16 ans, tu m'as autorisé, elle m'a dit, maintenant, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Et en fait, elle ne s'attendait pas du tout. Et elle s'est posé la question, du coup, pendant 2 semaines. Elle a dit, En fait, elle s'était dit, je sécurise la famille, quoi. Et donc, elle s'était vue toute sa vie. Et 2 semaines après, elle a dit, en fait, je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et là, elle ouvre son cabinet, là, dans une semaine. Elle a démissionné il y a 1 an et demi. Elle elle-même entreprend aujourd'hui, quoi. Donc, on s'est tous les deux aidés à entreprendre.
Donc, elle a pris quand même 2-3 ans avant de partir, même une fois que...
Après, le temps de maturer, ouais. Et puis, il n'y avait pas d'urgence non plus. Et puis, c'est vrai qu'elle n'était pas du tout dans cette optique-là, quoi. Donc, elle a aussi pris le temps de construire son histoire.
C'est beau comment on avance en couple aussi. Est-ce que tu as dit sur Saint-Exupéry, des forces, c'est un peu la sérendipité, on va dire, ce concept qu'on va apprendre, ce qu'on ne sait pas qu'on va apprendre aussi.
Oui, il y a cette notion de hasard, mais il faut créer. Donc, le hasard créatif, il vient, mais parce qu'il y a une intention, quoi. Donc, travailler ses intentions... être entre guillemets un peu à fond et c'est vrai que j'ai partagé avec beaucoup d'entrepreneurs ce point-là, c'est assez dingue parce que il faut croire que quelque chose est possible, il faut même le voir et tout, on a envie de le construire. Et souvent, on est surpris de là où ça part, en fait. C'est-à-dire que c'est jamais là où on a vraiment mis l'énergie. Mmh. Et quelque part, avec d'autres entrepreneurs, on partageait ça en disant, mais en fait, il faut mettre de l'énergie, c'est cette phrase de Saint-Exupéry, et ça partira quelque part. Et notre ego voudrait que ce soit là où on a mis l'énergie, qu'on soit fier de nous. Mmh. Et bien, souvent, on est un peu bluffé et ça part sur un autre sujet, quoi. Mmh.
C'est vrai, c'est pas ça comme ça tend. Ouais. Mmh. Et aujourd'hui, donc, tu es CEO de Inside Outside, tu as 30 employés dans cette structure de repas. C'est quoi aujourd'hui, au jour le jour, les challenges, les responsabilités, les objectifs pour toi?
Alors, il y en a un, on va dire, classique d'entreprise, de continuer à se développer. Qui est un peu une gageure en ce moment parce que avec le Covid, notre métier il s'est arrêté complètement. L'avantage, c'est que nous, on avait toute une partie digitale assez forte, donc ça nous a permis encore plus de nous centrer là-dessus, de le développer. Et c'est-à-dire que le développement, on ne le prend pas seul, puisqu'il y a maintenant bientôt 8-9 ans, on a décidé de supprimer la hiérarchie, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui entreprise libérée, ou enfin, il y a différents mots. Et donc, il y a cette expérience aussi de vivre ce développement avec un mode de management, alors, du coup, c'est pas le bon terme management, mais avec un mode de vie au quotidien qui est un peu différent de ceux qu'on a l'habitude d'expérimenter. Donc, en gros, un résumé, ce serait de réussir un développement en vivant autrement que par un système hiérarchique. Et là, je rejoins nos discussions sur le masculin et le féminin, parce que la hiérarchie, en fait, c'est un élément du masculin. Mmh. Et quand il est au centre, bah forcément, tout est très masculin. Et donc, l'idée, c'est de voir si aussi, il y a un petit côté expérimental, on ne s'en cache pas, même si on est aussi dans un groupe qui attend des choses. Donc, on doit faire notre développement, ce n'est pas un truc de bisounours. Mmh. Mais c'est avec cette donnée-là aussi, qui est constitutive maintenant depuis une dizaine d'années de la structure. Et c'est donc d'enlever cet élément-là. Donc, il y a toutes les notions de confiance, d'auto-organisation qui sont en question et qui ont été mis à rude épreuve, entre guillemets, mais du coup, au contraire, qui nous ont testés justement au moment du Covid. Ouais. Parce que nous, notre métier s'est arrêté. Et je pense qu'on a été sauvés de par notre organisation. Parce que du coup, en étant très libérés, on n'a pas fait de slide de PowerPoint, tout le monde s'est réorganisé et on a réussi à se réadapter en temps réel. Quoi. Wow.
Ça, c'est vraiment différent de ce que j'ai vu dans d'autres entreprises où il y avait vraiment tout le top exec qui était en train de prendre les consignes et de les repasser. Et ça a pris toute l'énergie des entreprises.
Ouais. Là, ce n'était pas le cas. Ouais.
Et juste pour revenir au début, donc avant de s'engager sur ces 18 mois là où, avec l'appui de ta femme, quand tu es sorti du grand groupe, tu avais déjà, parce que nos auditeurs souvent ils disent j'ai pas encore une idée ou j'ai pas encore assez de capital pour faire la transition, enfin il y a plein de choses, t'en étais où toi avant de sortir de l'entreprise, tu avais déjà avancé un peu dans l'entrepreneuriat, tu avais fait des formations, tu avais quelque chose ou pas du tout?
Alors j'avais mon cursus universitaire était dans la gestion, donc on va dire j'avais touché du doigt ces éléments là. Après, moi, franchement, je n'avais pas c'était pas très rationnel, mais je savais que mon truc, c'était je m'en fous de l'idée. C'est-à-dire que j'aurais créé dans n'importe quoi, je sentais que j'avais quand même envie de créer, de faire des choses. Et par contre, je savais aussi que je voulais créer avec d'autres personnes. Ouais. Donc, ce que je cherchais, c'était plutôt des gens. Mon associé actuel, qui était parti de la même structure que moi avant pour développer une TPE, je lui ai dit, écoute, dès que tu as une idée, tu me dis. Puis un jour, il m'en a partagé une. Je me suis dit, bon, quelqu'un avec qui j'ai envie de créer, il me donne une idée. Et donc, on a bossé cette idée-là, mais plus avec l'envie de mettre plein d'intentions, autre que l'idée elle-même de faire des événements ou de faire des congrès, qui était de. Parce que tous les deux, on était formés dans les systèmes d'information, donc comment on apporte du digital dans un métier, comment on digitalise ce métier-là, comment du coup on l'optimise. Donc, il y avait d'autres strates, on va dire, professionnelles qu'on voulait adresser. On se disait qu'au final, ça permettrait de réussir la création d'entreprise. Quoi.
Donc, lui, il avait déjà donné sa démission, il était déjà entrepreneur. Oui. Et de ce moment qu'il t'a invité pour l'idée, au moment où tu as donné ta démission, ça a duré.
C'est passé 2 ans, je crois.
2 ans, quand même. Ouais.
Un an pour brasser l'idée. Et puis après, la décision a été prise et 1 an pour organiser le départ.
D'accord. Donc, c'était un an sur lequel il y avait quand même du travail, des heures toutes les semaines,
ah,
des
oui.
réunions.
Ouais. Ah, j'ai fait le soir et week-end.
Je me rappelle,
parce qu'en fait, il y a une structure qui a été très importante dans notre création, c'est le réseau Entreprendre. Et je dis toujours que en fait, j'ai créé 65 versions de business plan, donc je l'ai bossé, ce business plan. Et en fait, quand j'ai rencontré le réseau, et notamment une personne, j'ai balancé mes 65 versions. En fait, j'avais fait la version 1.65, mais je ne le savais pas. Et j'ai attaqué la vraie version 2. Qui nous a permis vraiment de créer derrière. Quoi. Voilà. Donc, et notamment, là, j'ai appris un truc, c'est qu'on est toujours trop seul et qu'il faut aller se confronter. Il faut aller confronter ses idées et on a trop tendance à garder ses idées pour soi, aller bosser. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment aller se confronter. Et c'est là où les choses, elles grandissent, c'est là où les choses se font. Ouais.
On n'a pas besoin forcément d'un business plan trop détaillé.
En fait, c'est un élément de communication, le business plan, pour parler avec d'autres personnes, mais ce n'est pas un élément vraiment de projet, en fait. D'ailleurs, on dit souvent qu'on fait autant de business plan qu'on a de un pour un banquier, un pour un investisseur, ce n'est pas les mêmes. Mais ce qui est normal, ce n'est pas le même niveau de langage. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'accompagne pas mal de boîtes, notamment dans les entreprises, et qu'on a quasiment toujours ce retour-là. C'est se donner la chance de se confronter à un marché et de trouver sa voie. Mais c'est hyper rare que quelqu'un ait dessiné quelque chose sur un business plan et qu'il le déroule derrière. En général, la réalité des choses, elle est bien plus compliquée qu'un simple business plan. Quoi.
Et tu es rentré au réseau Entreprendre dès le début, alors, en sortant de...
Ouais, bah, ça a été... Cette envie de créer, et d'un autre côté, elle était percutée par le fait que dans mon entreprise, dans ma famille, des deux côtés de ma famille, sur plusieurs générations, personne n'avait jamais rien créé. Et moi, être chef d'entreprise, ça me paraissait être quelque chose de dingue. Personne ne m'en avait parlé quand j'étais petit dans ma famille. Et je me suis dit, mais pourquoi moi? Puis j'avais aussi des images un peu négatives du chef d'entreprise un peu magouilleur. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pour moi, quoi? Est-ce que c'est... Et c'est vrai que le réseau Entreprendre, je l'avais pris surtout pour ça au début, parce que ce sont des dirigeants qui bénévolement viennent donner leur avis. Et je m'étais dit, si des dirigeants me disent qu'ils croient en mon projet, ce sera pour moi le blanc-seing pour y aller. Et d'ailleurs, donc, il y a tout un process. Et puis, au moment de la validation, je passe l'entretien. Je sens qu'ils discutent beaucoup au moment du moment de la mission, parce qu'il y a un jury. Et puis, je rentre dans la salle. Et puis, la personne qui faisait qui devait me rapporter me dit, on ne croit pas en votre projet, mais on croit en vous et en ce que vous pouvez en faire. Et donc, on va vous accompagner. Voilà. Et cette phrase, elle m'a suivi toute ma vie d'entrepreneur. Et d'ailleurs, elle vient à nourrir ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le projet, en fait, peu importe, c'est ce qu'on en fait à la lumière de la confrontation qu'on va avoir sur le marché.
Wow. Et ce début, donc, pendant ces deux années, une année pour maturer l'idée, une année pour vraiment planifier la sortie du grand groupe et tout ça, j'imagine qu'il y avait pas mal d'heures quand même qui étaient mises en plus. Donc, comment c'était pour la famille, les enfants? Comment est-ce que ça a été pour les enfants, ces 17 ans d'entrepreneuriat aussi, en tant que papa?
C'est beaucoup, enfin, c'est des choix, en fait. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup d'amis, je dis souvent ça dans cette phase-là, parce que ce que j'ai mis au centre de ma vie, c'était l'entrepreneuriat. J'ai gardé le sport parce que c'était important pour moi et ma santé et ma famille. Voilà. Il n'y avait que ça. Donc, c'était aussi pour me concentrer sur quelque chose, j'ai éliminé beaucoup d'autres choses autour. Donc, c'était beaucoup de boulot et mes choix, c'était je me levais tôt. Et quelque part, la famille, on ne la voit pas souvent, même. C'est-à-dire qu'on la voit le matin et le soir. Quoi. Donc, j'essayais d'être là le matin, donc de 7h à 8h, d'être avec les enfants, de les accompagner éventuellement à l'école. Et puis, le soir, je rentrais plutôt vers 20h, et toujours aussi de manger à table avec eux le moment du soir. Donc, et les week-ends et les vacances, c'était sacré. Voilà, donc, j'ai essayé de sauvegarder tout ça. Et le reste, avec l'accord de ma femme, c'était vraiment c'était le boulot. Quoi. Donc, oui, c'est une vie aussi qu'il faut... Enfin, créer en travaillant 35 heures, c'est impossible, ça c'est certain. Donc, il faut être prêt à donner beaucoup d'énergie et il faut que le cadre familial soit prêt à suivre.
Et tu parlais donc de se réveiller tôt le matin. C'est quoi les habitudes que tu as développées de développement personnel pendant... J'imagine que le sport était déjà là depuis le début, mais alimenter ton intellect, lire beaucoup, peut-être des conférences, du coaching, du mentorship, c'est quoi qui t'a aidé, toi?
Moi, c'est les bouquins. Très clairement, alors à l'époque en 2005 il y avait un peu moins de podcasts Alex ne faisait pas ses podcasts mais donc du coup En fait, quand on est dirigeant, on est confronté à plein de soucis de développement personnel et puis de problématiques de relations, de parler en public, de ci, de ça. Donc, en fait, à chaque fois, j'achète un bouquin. Et d'apprendre à dire non, moi, c'était un gros problème, ça. Apprendre à dire non. Et heureusement, à un moment, j'ai trouvé le bouquin qui m'a sauvé. Et donc, j'ai une bibliothèque qui est remplie. J'ai un budget librairie énorme. Donc, j'ai beaucoup lu sur beaucoup de sujets qui m'ont aidé à apprendre les trucs importants sur tous ces sujets qu'il fallait adresser pour pouvoir maîtriser un minimum quoi, et pas se retrouver noyé, parce que c'est vrai qu'un entrepreneur, il fait de la gestion, il fait du RH, il est confronté à des clients, à des adversaires, à des problématiques, le moral baisse, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc effectivement, les lectures, moi, c'est ce qui m'a sauvé. Et puis aussi j'ai lu aussi beaucoup de livres de gens, d'entrepreneurs qui avaient réussi. Donc je m'inspirais aussi de gens qui réussissaient.
C'était très intentionnel, les livres. J'ai l'impression que ça va. Ouais. C'était pas une liste de lecture comme ça. C'était vraiment en fonction des problèmes, je lis pour résoudre un problème.
J'ai fait beaucoup ça. Ouais. Après, j'ai eu aussi un peu plus de lecture spirituelle qui m'aidait aussi à tenir le choc. Mais effectivement, j'avais beaucoup de bouquins très intentionnels. J'ai un problème. Allez, des gens ont déjà dû adresser le problème. C'est quoi leur conclusion? Moi, je veux savoir et je veux l'utiliser pour avancer, quoi.
Et au niveau du réseau personnel, des amitiés, parce qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des gens qu'on côtoie autour de nous, tout ça et tout, et donc pas d'entrepreneurs du tout dans la famille, j'imagine, donc pas beaucoup de contacts avec des dirigeants, et donc sortir d'un grand groupe et commencer. Comment est-ce que ça s'est passé, ça?
Moi, j'avais cette expérience du sport où j'avais côtoyé ces champions. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait faire la même chose. C'est-à-dire qu'il fallait que je recôtoie les champions du secteur, quoi. C'était évident. Donc, d'où le réseau Entreprendre, puisque du coup, j'ai été avec des dirigeants. On se voyait, tout un process où on se voit tous les mois avec d'autres dirigeants créateurs. Donc, mon but, c'était de me mettre dans le bain de ces personnes-là, de les côtoyer, de les lire, et voilà, de comprendre quels sont leurs univers, qui ils sont. Et voilà. Et à ma grande surprise, j'ai découvert un monde hyper hétéroclite, c'est-à-dire que autant dans le sport, j'ai trouvé plutôt il y a la différence, mais quand même, je trouvais plutôt qu'il y avait une réduction assez mentale. Et dans le monde de l'entreprise, j'étais hyper étonné de la diversité. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un message qu'on peut envoyer à tous les créateurs, c'est il n'y a vraiment aucun code pour être créateur. C'est-à-dire que n'importe qui, avec sa diversité, ça m'a, à chaque fois, je me suis dit, en fait, il y a de la place, j'ai la place pour moi, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Parce que je n'ai pas trouvé de code en me disant, pour être entrepreneur, il faut être ça, ça et ça. Il faut se trouver soi-même, il faut se progresser, d'où le développement personnel, mais il y a plein de gens qui ont réussi de plein de manières différentes.
Et au niveau des livres, donc tu parlais de ce livre qui t'a appris à dire non, quels sont les titres comme ça qui t'ont le plus impacté, que tu donnes plus en cadeau?
Moi, j'ai eu une époque sur le pouvoir de l'intention, à un moment, de vraiment me dire, il faut que je me conditionne. Donc, il y a eu tous ces bouquins. Qu'est-ce qu'il y a eu comme phase? Après, j'ai eu toute une phase sur le management. Donc, parce qu'à un moment, j'ai été vraiment impacté en me disant, OK, je ne veux pas faire une entreprise comme je l'ai vécu moi avant. Donc, j'ai eu beaucoup de lectures. Et là, j'ai eu les livres, notamment d'Éric Julien sur les Indiens Kogi, qui m'ont énormément ouvert l'esprit. Aussi, Frédéric Laloux sur l'entreprise Opal. Voilà. Puis après, la spiritualité a pris de plus en plus de place, en fait, au fur et à mesure. Et puis voilà, un des livres que j'offre le plus aujourd'hui, c'est Louis Sanza, La Voix du Sentir. C'est quelqu'un que. Enfin, je trouve qu'il fait la part des choses entre la spiritualité et puis le vivre. Tu fais le lien entre développement personnel et entrepreneuriat. J'aime bien ces dualités, c'est-à-dire mais qu'au final, tout ça sert à s'éclater et à être joyeux. Voilà. Et c'est ce que j'aime notamment chez Louis Sanza, c'est que c'est un jouisseur et qu'on entreprend au final pour expérimenter, vivre une expérience. Et au final, tout ça, c'est pour se faire plaisir, quoi, au sens élevé et risqué du terme, mais que ça apporte énormément de plaisir.
La spiritualité, j'imagine que c'est un thème qui est fondamental. C'est là où il y a une énergie de vie pour tout le monde, mais que dans le monde entrepreneur, ce n'est pas facile d'en parler, surtout en France. Ce n'est pas quelque chose de. Peut-être pour ça que Louis Sanza, ça passe mieux de jouir que de. Que de
tout à fait.
Les Indiens Kogi, par exemple, parle-nous-en un peu plus. Comment, ouais. C'est quoi tes croyances aujourd'hui, toi, tes principes de vie et comment est-ce que les Indiens rentrent dans tout ça?
Et les Indiens, ça a été un impact. Eux, ils m'ont retourné par contre. Hein, puis j'ai eu la chance de les rencontrer. Et là, il y a eu un jour avant, un jour après. Ça, c'est évident parce que c'est. On a un monde qui est très riche, hein, parce que voilà, les entrepreneurs, on en vient à parler, c'est tout un monde, le salariat, l'associatif, voilà, je veux dire, il y a plein de façons de vivre, mais globalement, on vit tous dans une même histoire collective. Qui est le progrès, qui est d'aller toujours plus vite, qui est et dans lequel effectivement la spiritualité elle se ferait un chemin, mais c'est pas évident en fait. Et il y a une espèce de compétition qui se crée entre cette exigence du quotidien et puis la spiritualité qui nous invite à être un peu plus calme. Quoi. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné à la Zania, c'est qu'eux ils ont créé une société au centre, ils ont vraiment mis leurs éléments, notamment d'équilibre féminin-masculin, la notion des liens, donc du lien à l'autre, du lien à l'univers, du lien à la nature, et qu'eux, ils respectent pleinement ça. Voilà. Donc, c'est complètement incompatible avec notre monde d'aujourd'hui. Par contre, c'est très enrichissant et on peut s'inspirer d'eux. Et d'ailleurs, ils nous invitent, parce qu'on a une vraie problématique hein, qu'on va devoir adresser, qui est notre vie avec la nature. On voit bien que là, quand même, sans être... extrémistes dans un sens ou dans l'autre, qui est quand même un petit problème. Et eux, qui sont dans leur montagne, qui ne parlent pas notre langue, en fait, le disent depuis déjà 40 ans et nous invitent à se connecter à eux pour avoir des solutions. Et donc, c'est un peuple moi, qui m'inspire beaucoup parce qu'il est à l'opposé de nous. Il s'est construit différemment. C'est comme si on avait un peuple extraterrestre. Alors depuis que je les connais, je pense que c'est l'inverse. C'est que nous sommes extraterrestres. C'est-à-dire que nous avons quitté la Terre. Eux sont bien des terrestres, eux sont bien restés ancrés et ils sont connectés à ce qu'ils appellent la terre-mère, hein, qui est beaucoup de lectures, pas que indiennes. Et nous, je pense qu'on a à gagner en retrouvant ce lien. Voilà. Donc là, il y a des choses à trouver. Et puis, c'est tellement... Un autre extrême que quelque part c'est très nourricier, très nourrissant. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, c'est des choses qui me nourrissent beaucoup.
Ça donne un équilibre d'avoir ces.
Ouais, ça. Ouais. Et les Indiens sont j'ai tendance à dire, les grands maîtres de l'équilibre. C'est-à-dire que eux, c'est ce qu'ils ont. C'est marrant parce que quand on se tourne de l'autre côté, Chine, Inde, aussi, toutes les notions d'énergie, elles sont aussi développées. Les Indiens d'Amérique avaient aussi ça. Et puis nous, on a l'Occident au milieu, on est très impulsif, mais du coup, cette notion d'équilibre, elle n'est pas très présente. Donc effectivement, on a un peu l'impression, quand on prône ça, d'être presque anti-occidental. Et pourtant, ça résout beaucoup de maux justement de l'Occident, et c'est un complément que moi je trouve assez génial et en tout cas qui apporte beaucoup de choses.
Et tes principes de vie à toi aujourd'hui, c'est quoi qui guide un peu tes décisions pour ce que tu vas faire dans le futur? Tu as vendu l'entreprise quand même, c'est un choix que tu as fait, donc de plus être tu continues à être le dirigeant, mais comme salarié. Il va se passer plein de choses dans le futur, je suis sûr, de belles aventures. Quels sont les principes qui vont t'aider à prendre des décisions où tu vas aller, ce que tu vas faire ou pas?
C'est très personnel, mais j'ai vraiment ce principe de... Moi, la notion du vivre ensemble, elle est vraiment clé. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau de la société, c'est un vrai sujet. Et donc, moi, quelque chose qui me guide, c'est... l'expérimentation du vivre ensemble qu'on fait nous dans notre structure ici, avec cette notion d'équilibre féminin-masculin, en retirant la hiérarchie, et tout en restant connecté au monde capitaliste, du progrès, d'évolution, mais en le faisant différemment. Et moi, dans le monde d'après, je pense qu'il va falloir qu'on réinvente des façons d'être organisés et de vivre ensemble dans nos rapports entre les différentes tranches d'âge, dans l'entreprise, dans le lien avec la nature. Donc, il y a cette notion du vivre ensemble et du lien qui est pour moi un élément clé. Elle est en lien plus avec mon métier, qui est des événements où on rassemble les gens pour justement leur faire vivre quelque chose ensemble. Et j'ai été toujours... bluffé en fonction des cadres que l'on pose, des résultats complètement différents qu'on obtient sur des personnes. Donc les gens changent du tout au tout en fonction des cadres que l'on pose. Voilà, si on pose une exigence, ils seront d'une certaine façon. Si on pose un cadre peut-être plus apaisé, ils vont être aussi différents. Donc ouais, moi, ce qui me drive moi personnellement, c'est d'expérimenter ce nouveau vivre ensemble. Donc, il y a une notion beaucoup liée à l'organisation, parce que je le fais aussi dans ma famille. C'est assez étonnant, on est une société où on apprend pas bien à se parler, en fait. Hein. Les objectifs, on rentre à la maison, le but, c'est de prendre du plaisir, on fait des activités, mais voilà, s'il y a un problème, on le met sous le tapis. Donc, c'est aussi comment on traite les problèmes, comment on en parle. Donc, au final, ça fait des organisations qui sont, je tendance à dire, beaucoup plus évoluées qu'une organisation classique hiérarchique qui va être très objectif, qui va essayer de dépasser les problèmes. J'entends, hein, ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, on est quand même... Les problèmes, quand même, au bout d'un moment, ils vont nous tirer vers le bas. C'est ce que je pense aussi qu'on va vivre au niveau de notre société. Et donc, l'idée, là, elle est de justement redescendre un petit peu. Et j'aime bien cette phrase, et du coup, transformer le plomb en or. C'est-à-dire que devenir des alchimistes de notre organisation, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui nous plombe. Et c'est ça, pour moi, la matière première de l'or de demain. Quoi. Voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a un problème avec le lien à la nature. Il faut vraiment aller s'y confronter. Ça apportera plein de solutions économiques aussi, parce que vu que c'est ce qui nous drive aujourd'hui, en résolvant des problèmes. Quoi. Mais si on est trop focus, avancé, trop masculin, il y a un moment, en fait, c'est bien d'avancer, mais on va faire l'inverse de ce qu'on veut, on va toucher un paradoxe. Quoi.
Et comment on fait pour développer ça? Donc moi, par exemple, j'étais formé maths-sup, maths-spé, ingénieur, et j'étais dans ma tête. J'avais le sport, la nature, les choses pour sortir, je n'avais pas eu tout ça et tout, et ça n'a pas été facile d'apprendre à me connecter avec mon énergie féminine, d'accueillir, d'écouter. Je suis toujours en processus et j'ai trouvé pas mal de chemins, de choses, tout ça et tout. Je crois que tu es en train d'écrire un livre sur l'énergie féminine aussi.
J'essaye.
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est plutôt dans l'entrepreneuriat traditionnel, dans ces structures que tu dis que hiérarchiques, où on résout les problèmes momentanément, mais on voit qu'au final, on va dans le mur à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer cette capacité nouvelle, on va dire?
Je vais être très pragmatique et je pense que tout le monde est très pragmatique. Je pense qu'il faut faire vivre une ou deux fois l'expérience qu'il y a des solutions qui arrivent par ce type d'énergie. C'est-à-dire qu'on est, on est tous convaincus, en fait, que si on bosse des heures sur un truc, on y réfléchit, on va avoir une solution. Voilà. On est beaucoup moins convaincus que si on ne fout rien sur une chaise, on va avoir la solution. Et de la vivre au moins une fois, et ben on se dit, voilà. Moi, je me suis surpris plein de fois où, pareil, tous on utilise notre intuition à des degrés divers. Voilà. Et souvent, on est surpris que notre intuition était bonne. Et au bout d'un moment, c'est de se dire, ah, mais attends, mais ça a marché. Moi, il y a plein de fois où j'avais une intuition, il fallait du courage pour le suivre. Je me suis dit, bon. Et je me suis surpris à dire à mon intuition, putain, si ça ne marche pas là, tu m'emmènes là-dessus, mais si ça ne marche pas, c'est fini. Hein, je ne t'écoute plus une seconde et ça marche à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, arrête de l'agresser sans cesse et de dire, maintenant, celui-là, quoi. Celui-là. Quand tu médites qu'il y a quelque chose qui remonte, c'est peut-être pas mal, quoi. Donc, et effectivement, et plus d'une fois, ça a été plus que pas mal. J'ai eu des résultats incroyables, quoi. Et du coup, c'est venu en contre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais en fait, brasser pendant des heures, réfléchir et tout, en fait, c'est contre-productif. Il vaut mieux des fois rien faire, relâcher, écouter d'autres énergies, croiser des infos et attendre. Et peu à peu, du coup, il y a cet autre élément qui rentre. D'autres exemples que je peux te donner, quand on enlève la hiérarchie, il y a la notion du contrôle. Et tout de suite, en tant qu'occidental, on se dit, attends, mais si je ne contrôle pas mes collaborateurs, mes machins, on va voler, on va pas faire le résultat. Il y a des peurs qui arrivent, quoi. Et d'un autre côté, j'ai eu des cadeaux incroyables, des niveaux de performance fous, parce qu'on avait justement enlevé le contrôle et que des gens se sont révélés, que des gens ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait s'il y avait eu le contrôle. Et donc, au bout d'un moment, en fait, j'ai accordé ma confiance à cet autre monde énergétique. Et c'est ce que donc j'incite à tout le monde d'oser essayer et d'avoir des premiers retours. Si ça ne marche jamais, qu'ils restent dans leur énergie. Mais moi, je suis sûr que ça va très bien marcher. Et là, peu à peu, ils vont avoir envie d'ouvrir cette porte, quoi.
Et quel genre d'exemple on peut avoir pour inciter, pour aider des collaborateurs ou des gens, des entrepreneurs à avoir ces expériences au tout début? De quelle manière on peut les,
les aider à... De quelle manière? C'est une bonne question parce que ça passe vraiment par soi-même. De quelle manière
quelqu'un, par exemple, qui n'a pas encore médité, qui n'a pas encore... mais qui écoute ce podcast et qui dit oui, ça a du sens. Ça a marché pour Fred, peut-être que ça peut marcher pour moi.
Moi, je pense que c'est comme le sport, c'est comme quand on apprend une nouvelle machine. Il faut essayer, quoi. Moi, je n'ai pas d'autre conseil que... Moi, j'étais nul en méditation. J'ai juste acheté un CD pour me guider la première fois. Je l'ai écouté 30 fois. La 26e fois, il s'est passé quelque chose. Et après, c'était bon, quoi. On a tous après faire du vélo. On est tous tombés, quoi. Donc, je pense qu'il faut... Il faut croire, tu es là avec tes podcasts pour l'expliquer, il faut croire qu'il y a un univers, se dire, mais attends, beaucoup de gens le disent, il faut aller marcher là-dedans, il ne faut pas, à la première échec, rentrer à la maison, et puis au bout d'un moment, il y a des choses qui s'ouvrent, quoi. Mais c'est une expérimentation que personnelle, parce que c'est comme moi, je le dis souvent sur l'entreprise libérée, sans hiérarchie, je pars du principe que personne n'y croit. C'est-à-dire que nous, on recrute des personnes, on leur explique comment on fonctionne. Ils me disent « Ah, c'est génial et tout », mais je sais qu'au fond d'eux, ils n'y croient pas une seconde. Parce qu'en fait, il n'y a aucune organisation comme ça qui fonctionne. Dans les familles, ce n'est pas comme ça. À l'école, ce n'est pas comme ça. Dans les religions, ce n'est pas comme ça. Donc, on n'y croit pas, en fait. Voilà. Et je sais que chacun d'eux va croire en ce qu'on fait ici par l'expérience. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont se rendre compte un jour que « Ah oui, ça marche. Ah oui, tiens, mais je ne pensais pas que ça fonctionne. » Et c'est étonnant, il y a des gens, il leur faut 4 ans, 5 ans. Avant de commencer à y croire vraiment. D'autres, ça va être au bout de 2 mois, 3 mois. Mais donc, ça passe par l'expérience personnelle. Et s'il n'y a pas d'expérience de fait, il n'y aura pas d'apprentissage et il n'y aura pas d'ouverture de porte. Donc, il faut avoir envie quand même d'aller explorer cette autre zone, quoi.
C'est quelque chose qui est radical dans un sens.
Mais qui n'est pas tant que ça, parce que on peut rester complètement ancré dans le physique, dans tout ce qu'on a appris à l'école, le machin, et puis ouvrir un quart d'heure dans sa journée, quoi. Pas le faire qu'une fois, quoi. Le faire 10, 20, 30 fois. Si vraiment il ne se passe rien, fermez la porte. C'est impossible qu'il ne se passe rien.
Et comment tu concilies les deux choses que j'entends souvent Donc, quand tu m'as dit tout à l'heure, 35 heures par semaine, ce n'est pas possible d'entreprendre. Et clairement, tu faisais des efforts pour être là le matin, mais c'était de 8h à 20h, 12h par jour où tu étais en train de construire. Et ça a été de nombreuses années. Enfin, c'est une vie, en gros, de sacrifice où tu as perdu des amis, tout ça et tout. Et en même temps, cette idée de jouir, de prendre du temps, de ne rien faire. Donc, tu disais, ça peut être 15 minutes par ici, tout ça et tout. Il y a un peu ces discours quand même de l'entrepreneur lifestyle d'un côté et celui qui dit que non, il n'y a pas d'autre moyen que ça.
Là, c'est là où ça fait vraiment le lien entre le développement personnel et l'entrepreneuriat. C'est qu'en fait, ce n'est pas du travail. On est sur son chemin et moi c'est ce qui m'a toujours nourri, que c'est en entreprenant je me suis retrouvé sur mon chemin et j'ai vécu ce que je voulais vivre. On s'affronte soi-même, c'est-à-dire que tous nos biais, nos limitations personnelles, on se les prend plein de gueule. Donc moi ça m'a montré mes limites, ça m'a incité à les dépasser. Et du coup, oui, c'était du coup beaucoup de boulot parce qu'on ne dépasse pas ses limites en travaillant plus d'un par jour, quoi. Mais au final, on est aussi beaucoup nourri énergétiquement par les retours, par les relations, par ce qu'on apprend. Donc, c'est à la fois épuisant, il faut quand même faire gaffe parce que moi, au bout de 12-13 ans, j'avais le corps qui était un peu bien bloqué à certains endroits. Donc, il faut faire attention à son physique. Mais en tout cas, énergétiquement, on est vraiment nourri. Et on sort justement du travail au sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la souffrance. On est dans du travail où il y a constamment un retour. Parce que c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que feedback sans cesse, chaque seconde. Quelque chose qui ne marche pas, on le sait dans les 2 jours. Quelque chose qui marche, on le sait aussi dans les 2 jours. Donc, en fait, on rentre dans un monde où on est en permanence alimenté d'échecs de réussite. Et donc, c'est un autre monde que celui du travail classique qu'on va faire une grille ou une feuille qu'on nous demande de remplir.
Et sur les dernières années, quelle serait la croyance, comportement qui a le plus changé en toi en tant que créateur au début, mais plus dirigeant aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé en toi au niveau de tes croyances?
Moi, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est cet élément-là que j'incite pas mal de monde à essayer d'aller expérimenter, c'est de lui laisser vraiment une place et de commencer à vraiment faire confiance à ça. Parce que même si j'en parlais, je restais dans l'action pour le faire, quoi. Et là, c'est vraiment dans l'organisation, dans les prises de décision, de vraiment se reposer dessus. Voilà. Et ça fait flipper des fois. Et donc de construire avec cet équilibre-là. Voilà. Donc moi, c'est vraiment... On ne peut pas dire un combat parce que ce sera antinomique, mais c'est de chercher cet équilibre énergétique masculin-féminin et de le garder et d'en faire l'expérience. Moi, je suis encore au moment là où j'en parle, mais j'ai pas fait. Enfin, je fais des expériences, mais j'ai pas le recul encore nécessaire et il n'y a pas la stabilité encore. Ça, c'est vraiment le. Mais c'est incroyable les histoires que l'on a et comment ça fonctionne bien.
Quelle technique en particulier tu utilises pour ton organisation pour garantir que est-ce que tu structures ton agenda, les réunions d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide à pouvoir prendre des décisions avec ton intuition et organiser ton agenda pour que tu ne te laisses pas emporter par cette vague du capitalisme?
Ça, c'est le gros enjeu, c'est d'avoir du temps libre. Voilà. Donc, en fonction des périodes, je ne fais pas au même moment. Là, par exemple, en ce moment, j'utilise beaucoup le matin. Donc, je me lève plus tôt et puis j'ai un temps pour moi obligatoire. Avant, je le faisais avec le sport. Maintenant, je le fais à l'arrêt à la maison. Là, tu vois, avant qu'on se voit, je suis volontairement rentré chez moi. J'ai mis de la musique que j'aime parce que je devais reconstruire un événement. Et je l'ai fait justement dans des modes très connectés à moi. Donc, j'essaie de me créer ces temps-là, en fait. Je vis ce que tu cites, c'est-à-dire que des fois je suis happé par tout ce qu'il faut faire et donc je me déconnecte de ça, mais en plus ça devient de plus en plus négatif, c'est-à-dire que du coup je suis moins efficace, je suis encore plus en plus happé, donc après là, j'ai un combat, je remets ces éléments-là parce qu'ils sont tellement productifs et j'avance tellement vite, et alors que de l'extérieur je pense que si on me prenait en photo on me dit mais qu'est-ce qu'il fout, il fait rien, mais en fait non, ça marche bien, donc c'est de trouver effectivement, et c'est là où je n'ai pas encore toutes les clés de réussir à trouver cet équilibre, quoi. Mais c'est une gageure dans nos sociétés.
Et pour le présent et le futur, comment est-ce que tu penses continuer à te développer? Quels sont, donc, c'est surtout les livres, les lectures et l'expérience qui t'ont amené jusqu'ici aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, pour ton développement personnel, dans le futur, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu envisages?
En fait, continuer à me confronter. Donc, continuer, en fait. C'est-à-dire que, en fait, là, j'ai eu un peu d'argent grâce à la vente. Je pourrais être consultant. Je pourrais, entre guillemets, quitter. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est de rester sur le dur, en fait. Voilà. Donc, de rester entrepreneur, d'avoir ces problématiques-là et de continuer d'expérimenter d'autres organisations. Donc, c'est vraiment ce qu'on a dit. En fait, c'est mon chemin d'aujourd'hui et de demain. C'est de pousser plus loin la structure, d'avoir grandir. Il y a plein de gens qui me disent « Ah oui, vous êtes sans hiérarchie, ah, oui, vous êtes 30, bon, c'est facile. Ouais. » Et si on était 100, et si on était 200, est-ce que ça marche? J'ai envie de le prouver. Et c'est un chemin qui est… où je tombe, je reconstruis. Enfin, c'est vraiment un chemin sur lequel j'avance, qui est pas simple, mais qui m'enrichit beaucoup. Les collaborateurs à différents degrés. Et donc, pour moi, c'est voilà, moi de construire ce nouveau vivre ensemble et d'expérimenter, ça me va bien pour les années qui viennent.
Ça va être beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas facile de trouver des mentors ou des exemples à suivre, à modeler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi encore.
Il y en a peu, mais il y en a. Il y a des gens incroyables qui émergent un peu de partout. Il y en a, c'est des petites communautés, mais il y en a beaucoup et elles grandissent. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est en train de prendre la puissance, qui vient en plus, ça vient aujourd'hui percuter un vrai besoin de société. Donc on sent que... Je ne me sens pas être, ni anti, ni décalé ésotérique. Non, je sens que ce sur quoi on bosse, ce sont les vraies réponses de société. Donc ça me motive aussi. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire ce lien, quoi. C'est pas de théoriser, c'est de montrer que ça apporte des réponses.
C'est vrai qu'il y a un vrai mouvement au niveau mondial. Il y a une déconstruction de l'ordre mondial actuel qui s'écroule. Et on voit les institutions, on voit Et à côté, bah, ces briques qui tombent, elles fermentent, elles nous permettent de construire, d'expérimenter. On n'a pas encore l'architecture totale.
Mais là, tu cites vraiment l'énergie. Mais du coup, il faut qu'on ait quelque chose à proposer. Parce que si quelque chose s'effondre et qu'on n'a rien en face, là, il y a un problème. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de construire déjà quelque chose de différent tout en restant dans notre monde actuel et de dire, mais attendez, regardez, si tout s'effondre, on peut aussi faire comme ça et ça marche. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant de faire, c'est un peu notre façon de construire ce fameux monde d'après tout en ayant les pieds dans le monde d'aujourd'hui et de montrer que... Et moi, aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a un monde d'après. On n'est pas du tout des exemples. Il y a des gens qui feront encore mieux. Mais en tout cas, c'est largement possible de faire autrement.
Et quel message tu voudrais passer à notre communauté chez Synapse de gens qui, comme toi, ils veulent suivre leur chemin, ils ont envie de se connecter avec cette intuition, ils ont ce rêve, mais souvent, il y a la peur qui nous arrête. J'imagine que toi, à plusieurs moments, tu l'as vécu aussi, la peur de... Il n'y a pas toujours l'épouse qui peut dire « vas-y », parfois on est seul, il n'y a pas toujours les cofondateurs qui ont déjà pris la décision. Parfois, financièrement, on n'a vraiment rien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces gens qui ont envie et qui ont peur et qui parfois se bloquent, essayent, mais pas vraiment
C'est toujours dur de savoir ce qui va déclencher chez quelqu'un ce premier pas, quoi. Moi, ce que tu dis, ça, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, qui est la notion du courage. Et le mot « courage », il est construit autour du mot « cœur ». Et je pense que quand on sent vraiment quelque chose au niveau du cœur, et même si ça a l'air fou, mais qu'on sent vraiment que c'est là au niveau du cœur, qu'à un moment il faut faire confiance. Après moi je faisais confiance, j'avais besoin d'une habilitation parce que j'embarquais ma famille, donc ma femme m'a donné cette habilitation. Pour d'autres, ça prendra d'autres formes, ce sera peut-être un signe, ce sera peut-être quelque chose, mais d'aller écouter cette partie-là et de ne pas l'enfermer, parce que quelque part de ne rien faire, c'est juste ça. En fait, souvent on fait du négatif, c'est-à-dire qu'on va enfermer cette voix qui nous attire vers quelque chose. On n'est pas tous amenés à être entrepreneurs, mais en tout cas quand on le sent au niveau du cœur, et là c'est de pas l'étouffer. Bien entendu, il y a plein de raisons de l'étouffer, parce qu'on ne gagnera pas les 3000 euros à la fin du mois, parce qu'il faut payer la voiture, et au bout d'un moment, c'est de se dire non, mais je vais suivre ça et de faire ce fameux premier pas. C'est la méthode Kaizen, des petits pas, il faut en faire au moins un. C'est le premier qui coûte, après on est embarqué, quoi. Et voilà. Après, on ne peut pas pousser les gens, parce que ce sont des milieux qui sont risqués. Mais je connais pas grand monde, je connais quelques personnes qui ça a été extrêmement douloureux, mais même eux, je pense que j'en ai un ou deux en tête là, je pourrais leur demander, je pense qu'ils sont contents d'avoir fait ce parcours là, parce que c'est des parcours de vie, on apprend énormément et on en sort riche, peut-être pas financièrement, mais d'expérience, ça c'est sûr.
Super. Et pour finaliser, deux dernières questions. La première, quelle question t'aimerais bien qu'on te pose?
Quelle question j'aimerais bien qu'on me pose? Tu m'en as posé beaucoup. Je ne sais pas. Quelle question j'aimerais bien qu'on te pose? Tu m'as posé plein de questions. Je n'ai pas de réponse. Je sais pas.
Ou peut-être, disons, quel est pour toi aujourd'hui le plus gros challenge, la plus grosse difficulté aujourd'hui que tu as envie de vaincre dans les prochaines années?
C'est encore la même réponse. La première grosse difficulté, c'est de réussir à faire fonctionner les choses avec des règles un peu différentes.
Voilà. À une plus grande échelle.
À une plus grande échelle, d'expérimenter ça. Et de rejoindre une société d'équilibre plutôt qu'une société d'extrême, mais dans laquelle on prend encore plus plaisir, dans laquelle on progresse tous, où il y a moins de dominants dominés. Donc moi, ça, c'est vraiment mon enjeu principal.
Et c'est en interne et en externe, je vois que tu le fais à différents niveaux, c'est-à-dire que tu as tes 30 personnes qui sont à différents niveaux et que tu accompagnes et qui idéalement vont grandir et le faire à une plus grande échelle. Mais en même temps, dans les réseaux où tu diffuses ça et tu accompagnes d'autres personnes à l'établir aussi.
Forcément, après, on fait un peu de prosélytisme. Je prends ça, donc j'ai envie qu'on soit plus nombreux à y aller, comme toi, tu fais des émissions pour partager des choses. Et quelque part, on a bien le droit de... On reste des exceptions, donc à minima, il faut qu'on en parle un peu, quoi.
Et pour finir, si tu pouvais transmettre 3 messages à l'humanité qui, avant d'aller sur Mars, tu vas perdre la connexion, c'est le dernier moment, quels sont les 3 messages que tu veux transmettre, cette fois-ci pas juste entrepreneuriat, mais vraiment à toute l'humanité,
À toute l'humanité, plein de choses à dire, mais puis c'est dur de tout résumer. Je sais pas, les mots qui me viennent, le premier mot, c'est équilibre. Essayer de rechercher l'équilibre dans les choses. On est dans un monde de dualité et ça passe par l'équilibre pour que le monde aille bien. Donc, équilibre, cette recherche d'équilibre. J'ai tendance à dire plaisir, mais pas le plaisir qu'on nous vend, quoi. Le plaisir lié au courage, lié à cet équilibre, justement, à cette espèce de jouissance de Louis Sanza, justement.
Le plaisir de se développer,
le plaisir de se développer, de grandir, exactement. Ouais. C'est de ça. Et puis, voilà, ça en fait déjà deux, c'est déjà bien.
Devenir quelqu'un de, vraiment c'est qui on devient, c'est pas trop ce qu'on fait ou ce qu'on possède, mais c'est plus le changement interne.
Ouais, mais c'est en cherchant cet équilibre, en se connectant à soi. Il y a cette histoire c'est un Indien qui a écrit un livre sur les trois liens, le lien à soi, le lien à l'autre et le lien à la nature, de ce que l'on est en fait. Donc de travailler ces liens, peut-être ça peut être ça aussi un message, ouais, c'est de travailler ces liens, ces trois liens. Donc soit c'est d'aller faire un peu d'introspection, dans le lien à l'autre, et ben, le voir positivement et le nourrir. Parce qu'un lien, les Indiens disent tisser les liens. Donc j'aime bien, on montre bien qu'un lien, ce n'est pas juste de se voir, il va falloir le tisser, il y a un travail en fait. Et puis un lien qu'on a coupé de manière très puissante, qui est le lien à la nature, parce qu'on se croit, on appelle d'ailleurs la nature l'environnement, donc c'est ce qui nous environne. Non, en fait, on est la nature, donc c'est même plus qu'un lien, c'est qu'on est, quoi. Donc voilà, de travailler, de retrouver ces liens et les bosser, moi, je pense que ce serait un chouette truc, quoi.
Merci beaucoup, Fred. On est passé du ski de fond, du sport à la santé, à la famille, en passant par l'entrepreneuriat, la spiritualité, le service aux autres. On a vraiment touché à beaucoup de choses. Donc, merci pour ta contribution.
Merci beaucoup, Alex.
Ce podcast vous a inspiré ? Êtes-vous aussi à la recherche de plus d'épanouissement dans votre vie, mais vous vous sentez submergé et abattu? Voulez-vous aussi réveiller la meilleure version de vous-même qui sommeille en vous? Vous êtes au bon endroit. Power of Synapse est notre programme révolutionnaire qui vous aidera à achever vos objectifs, éliminer vos croyances limitantes et créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Dites au revoir à la morosité pour toujours. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur mysynapse.eu/power. Je répète, mysynapse.eu/power. Le petit plus, si vous écoutez ce podcast et que vous souhaitez changer maintenant, vous pouvez bénéficier d'une remise de 15% en entrant notre code BECOME15 sur notre site internet mysynapse.eu/power. Nous avons hâte de vous y retrouver. Et aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous suivre, nous laisser un avis et nous dire les sujets que vous souhaiteriez voir traités ici prochainement. À bientôt!